coucou, c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio. Vacances sont terminées, bien terminées, alors tout le monde a repris, les petits comme les grands, les travailleurs, les écoliers. Et je suis ravie de vous retrouver en espérant que cette période estivale a été pour vous propice au repos et à la détente malgré ce que nous sommes en train de vivre. Et justement donc propice aussi à l'évasion. Alors je vous souhaite le bonjour, nous sommes repartis ensemble chaque lundi matin pour une année et déjà je vous suis reconnaissante pour votre fidélité et pour l'intérêt que vous prendrez à suivre nos rubriques. Comme le dit avec beaucoup d'humour Philippe Meyer, nous vivons une époque moderne et je vous souhaite le bonjour.
Le jour se lève, fini les rêves, c'est l'heure de prendre ton café. Dehors déjà, la nuit s'achève, la rue commence à s'agiter. Soudain venu d'on ne sait où, d'un vieux transistor allumé, s'envole et vole jusqu'à vous. Un petit air léger, léger, qui va te suivre toute la journée. Qu'elle fait du bien, la chanson du matin. Quand au réveil, elle te cueille l'oreille. Et jusqu'au soir, tu l'auras dans la tête. Ce petit air qui paraissait tout bête. Une mélodie comme tout premier frisson. Que tu retiens sans y faire attention. Y a rien de mieux pour te souhaiter bonjour, bonjour, tout en douceur quand se lève le jour. Coincé dans les embouteillages, près de la porte d'Orléans, merdement, dans leur bagnole, les fauves en cage rugissent et mordent leur volant. Soudain venu d'on ne sait où, après les infos tristes du matin, la dame de FIP au timbre doux balance un air qui fait vachement du bien, ouais, qui fait passer le goût de bouchon parisien. Qu'elle fait du bien, la chanson du matin. Quand au réveil, elle te cueille l'oreille. Et jusqu'au soir, tu l'auras dans la tête. Ce petit air qui paraissait tout bête. Elle se balade au fond des inconscients. Mémoire cachée des petits et des grands. Ces deux, trois notes qui nous font la vie belle. On vit très mal sans quelques ritournelles. Thank you. chanson du matin. Quand tu la siffles, tu la passes au voisin. On est à l'heure, plusieurs à l'adorer. Quelques dizaines, parfois quelques milliers, parfois quelques millions à la chanter. Qu'elle fait du bien, la chanson du matin.
Éric Toulis sur Radio Plus, et oui, votre radio vous accompagne tout au long de cette matinée avec ses chansons, certes, mais aussi ses rubriques durant cette prochaine heure. Alors des interventions, bien évidemment, celle de Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, pour notre jardinage bio et pour la préservation de la terre nourricière. Et comme le disait le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Miroslav Lajcak, en avril 2018, vivre en harmonie avec la nature n'est pas seulement bénéfique, c'est nécessaire. En harmonie avec la nature, mais aussi avec nos bêtes. Et Gilles Cotinet, président de l'ASE, Association pour la sauvegarde des équidés, qui ouvre ses portes à tous les équidés, chevaux de course, pur sang, trotteurs de sport, de selle, de promenade, poney, âne, jeune ou âgé, diminué ou en bonne santé, qui depuis sa création a parcouru des centaines de kilomètres afin de sauver pas moins de 200 équidés, sera avec nous en fin d'émission. Gilles Cotinet reste connu et reconnu par son sérieux et son dévouement dans le milieu équestre, dans le milieu équin. Professionnel et particulier d'ailleurs. Et nous entendrons et nous écouterons surtout son message.
Un cheval, dit un jour un vieux maréchal, s'il vous plaît, j'ai un fer qui brinque-balle, remettez-le horizontal. Je sors d'un bal, ah, si vous aviez vu ce carnaval, on n'a rien vu plus de normal, c'est pour ça que mon fer me fait mal. Ah monsieur, lui dit le forgeron, en faisant la réparation, je m'aperçois tout d'un coup que vous parlez, c'est extraordinaire. Au lieu de traîner dans des endroits si douteux, utilisez donc ce don des cieux, vous serez riche et bien heureux. Que peut faire un cheval qui sait écrire et parler? Il peut faire un tas de choses, par exemple s'exhiber. Mais au lieu de se montrer sous le chapiteau d'un cirque, notre animal prépara l'école polytechnique. Et sans mal, comme si tout cela était normal, le cheval passe à l'écrit, l'oral, et décroche à la timbale. L'institut, appelé à donner son point de vue, dut convenir que, puisqu'il était reçu, il ne pouvait être exclu. C'est ainsi que petit à petit, il devint ministre et puis décida de fermer pour la vie les boucheries chevalines. C'est alors qu'on trouva qu'il allait un peu fort, et comme tout le monde lui donnait tort, il retourna dans les champs et ne desserra plus les dents.
Jean-Claude Dindal sur Radio Plus. Ah oui, si on pouvait fermer toutes les boucheries chevalines, quel bonheur! Le cheval, c'est vrai, est presque devenu un animal de compagnie, et manger du cheval est comme si on mangeait son chien et son chat, comme l'a proclamé Karine Brocard de Doba, présidente de l'association Sauve Equi. Elle dit « C'est horrible ». Eh bien voilà, donc nous sommes dans l'air du temps, et dans l'air du temps, ce fait récurrent, répété, qui revient chaque année, et qui chaque année fait la une des journaux, la rentrée des classes. Eh bien oui, je sais, c'est dénué d'originalité, mais à croire que cela fait vendre, quoique cette année c'est un petit peu différent quand même à cause de cette pandémie. Ce qui est dommage, c'est que cette rentrée qui est souvent une joie pour les enfants, car ce sont les retrouvailles avec les camarades, eh bien, soit perturbée par le stress occasionné par ce fichu virus qui impose les gestes barrières. On souhaite quand même que toutes nos têtes blondes s'adaptent facilement à ces nouvelles directives et ne souffrent pas trop de la distanciation imposée quelquefois. Difficile, c'est vrai, de limiter les croisements entre les groupes d'élèves, mais heureusement, en principe, les jeux de contact et de ballon sont autorisés.
Dans la cour de l'école, quand on joue au ballon, les maîtresses s'affolent, le directeur dit non. Vous allez casser les vitres, vous allez vous blesser. Rangez-moi ça très vite ou je vais me fâcher. Dans la cour de l'école, les filles sans raison nous regardent et rigolent, se moquent des garçons. On s'informe, on s'inquiète, est-ce une maladie? Mais non, c'est l'âge bête, c'est papa qui l'a dit. Dans la cour de l'école, y a un grand marronnier, derrière lui on se colle quand on veut se cacher. Sans compter qu'à l'automne, il donne à profusion à ceux qui se cartonnent un tas de munitions. Dans la cour de l'école, les filles de leur côté s'amusent comme des folles à la corde à sauter. Elles jouent à la marelle et même à la poupée. Ça, on peut dire qu'elles nous font bien rigoler. Dans la cour de l'école, nous autres les garçons, c'est plutôt les bagnoles ou donjons et dragons. Bien sûr, on joue aux billes, on joue à chat perché, on invite les filles pour leur courir après. Dans la cour de l'école, elles volent comme des moineaux, des clapes-luies, des gringoles, elles vont sous le préau. Il y a comme une mare dès qu'il pleut un peu trop, et pareil aux canards, nous barbotons dans l'eau. Dans la cour de l'école, à la morne saison, les maîtresses s'étiolent et vont de large en long. Mais voilà le soleil, elles s'assoient sur le banc, d'un œil elles nous surveillent, de l'autre elles font semblant. Dans la cour de l'école, je veux bien y passer le reste de ma vie si c'est pour m'amuser. Dans la cour de l'école, la cloche a sonné, et voilà, c'est fini ni la récré. Dans la cour de l'école, quand on joue au ballon, les maîtresses s'affolent, le directeur dit non. Vous allez casser les vitres, vous allez vous blesser. Rangez-moi ça très vite ou je vais me fâcher. Dans la cour de l'école, les filles sans raison nous regardent et rigolent, se moquent des garçons. On s'informe, on s'inquiète, est-ce une maladie? Mais non, c'est l'âge bête, c'est papa qui l'a dit.
Georges Chelon sur Radio Plus. Et oui, c'est la rentrée aussi pour nos intervenants. Côté environnement, rien ne change. En mai, Nicolas Hulot disait qu'après le Covid, le monde d'après sera radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Et il le sera de gré ou de force. Alors personnellement, j'ai des doutes. Quoi qu'il en soit, et toujours pour le citer, on sait que cette crise sanitaire a trouvé ses racines dans des perturbations d'écosystèmes, mais on continue, voyez-vous. Alors on en parlera peut-être avec Bertrand Trinel, mais d'abord justement un petit peu de fraîcheur et on va descendre dans notre jardin en sa compagnie.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Bertrand.
Allô?
Oui. Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. Alors Bertrand, c'est aussi la rentrée pour vous et à nouveau merci d'être avec nous sur Radio Plus. Vous m'entendez Bertrand ? Vous m'entendez Bertrand ?
Là, très bien.
Voilà, d'accord, ça y est. Bon, alors je suppose que vous ne manquez pas de travail au jardin et que vous avez un emploi du temps fort chargé. Le mois de septembre est propice au stockage et conservation de saveurs estivales afin d'en profiter toute l'année. Et ce n'est pas parce que l'ensoleillement diminue que les activités sont moindres. Au contraire. Mais en parlant soleil, dites-moi, comment se sont passés ces deux mois estivaux avec leur forte chaleur et leur sécheresse, Bertrand ?
Alors, tout compte fait, pas trop mal. Hein. Bien sûr, on a été au jardin principalement le matin, puisque l'après-midi, avec les chaleurs, on était plutôt à faire la sieste plutôt qu'autre chose, bien à l'abri du soleil. Bon, il serait vrai qu'un peu d'eau nous aurait fait beaucoup de bien. Ça aurait fait beaucoup de bien aux plantes. Chez nous, au potager, les légumes n'ont pas trop souffert, car nous avons mis un bon paillage, alors notamment aux courges, aux tomates, aux céleri, tout ça. Donc, et malgré la chaleur, nous n'avons rien arrosé et tout s'est bien passé. Alors, toutefois, le soleil a quand même brûlé, il faut quand même le dire, c'est des tomates ont été brûlées, donc des pommes également. C'est pour dire qu'il a fait très chaud quand même. Hein. Alors, comme je dis souvent, un beau temps, c'est un temps qui change. Hein, et si nous avons besoin de soleil pour notre morale et pour notre santé, il faut également régulièrement avoir des pluies. Je suis désolé de le dire, parce que tout le monde aime le soleil, c'est vrai, mais si on n'a pas de pluie...
Non, c'est pas ça, c'est parce que vous me faites rire, c'est parce que, justement, vous dites, pour notre morale, on a besoin de soleil. Mais voyez-vous, moi, Bertrand, pour mon moral, j'ai besoin de pluie.
Ah, comme quoi.
Alors, ça fait un peu râler tout le monde, mais bon. Sans doute, n'avez-vous pas pris de vacances, en tout cas, Bertrand ?
Non, pas encore.
C'est vrai que beaucoup d'entre nous sommes partis et bien sûr en rentrant, on se rend compte que le jardin n'a pas attendu après nous pour pousser et on se demande par quoi commencer. Alors justement, quelles sont les premières choses à faire ?
Alors c'est vrai que depuis 3 semaines, la pluie a complètement transformé les jardins. Hein. Et ceux qui étaient partis en vacances et qui viennent de rentrer, ils ont dû retrouver un jardin beaucoup plus vert, plus luxuriant qu'avant de partir, ça c'est sûr. Alors bien sûr, les adventices, hein, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, s'en sont donnés à cœur joie. Donc moi, dans un premier temps, quand on rentre de vacances, souvent on commence par tondre la pelouse, hein, ça redonne un peu de clarté un peu au jardin, puis on se remonte les manches et on commence par nettoyer les parterres de fleurs ainsi que le potager. Hein, c'est toujours comme ça qu'on fait. Donc le nettoyage, ça consiste à enlever toutes les mauvaises herbes qui vont rejoindre le tas de compost, mais également à couper toutes les fleurs fanées, à tailler les rosiers qui sont défleuris, donc à redonner un coup de jeune au jardin. Et puis, pour ceux qui ont un potager, septembre, c'est aussi un bon mois, parce que c'est la cueillette des tomates. Hein. Ceux qui étaient en vacances, les tomates sont complètement en maturité, et maintenant, parfois même un peu pourries, pour certaines, si on les a pas récoltées. Et puis, la récolte des autres légumes également. Hein. Donc, voilà. Après, en septembre, c'est également le moment, pour ceux qui doivent mettre une pelouse, parce que la terre est encore chaude, de préparer la terre, pour pouvoir la semer en ce moment, parce que elle va pousser très très bien, très rapidement. Il y a de l'humidité, il y a de la chaleur. La pelouse va pousser forcément très rapidement. Donc, bon retour de vacances, ceux qui sont partis en vacances, et puis il y a de quoi faire au jardin.
Oui, tout à fait. Alors, vous venez de le dire, hein, les tomates sont à présent mûres pour la plupart. Malheureusement, pas de grande fête de la tomate cette année à Averskerk. Très mauvaise nouvelle pour vous et votre association des paysages et jardins des hommes. Et je suppose, Bertrand, que ce n'est pas de gaieté de cœur que vous avez dû prendre cette décision.
Non, effectivement. Donc, ce fut une décision très difficile à prendre pour nous. Hein. Mais bon... C'est ainsi, quoi, pour les visiteurs et puis les exposants, il fallait éviter tout problème de santé. Hein. Donc l'application des mesures sanitaires s'avérait vraiment impossible à tenir, donc on ne pouvait pas, on aurait eu des risques de santé pour les gens, donc c'était pas la peine. Quoi. Donc je pense qu'on a pris une sage décision. Hein, bon, on fera en sorte que l'année prochaine, la fête de la tomate et des légumes anciens soient encore plus belles que d'habitude. Quoi. On essaiera de remonter un peu ça encore plus beau.
Gardez vos tomates pour l'année prochaine. Alors sinon Bertrand, comment va votre association? Les activités qui n'ont jamais cessé, je crois, reprennent de plus belle. Et là, je crois que ça reprend en effet.
Oui, ça reprend. Alors, l'association PJA supporte très bien, hein, même si nous avons dû reporter quand même de nombreuses activités depuis le Covid, hein. Mais celles-ci ont repris pas mal, comme les cours d'art floral ont repris. Les prochains cours d'art floral auront lieu en octobre, novembre et décembre. L'atelier pressage de pommes commencera en fin septembre et continuera en octobre. On débute également une nouvelle formation de jardinage adulte en octobre. Et puis au jardin, bah, les activités de jardinage continuent, quoi, le nettoyage, et puis l'entretien, et puis les améliorations du jardin.
Alors vous dites l'atelier de pressage de pommes, rappelez-nous un petit peu quand même.
Ben, l'atelier de pressage de pommes, c'est des adhérents, si on n'est pas adhérent, bien sûr on peut venir, mais on demande quand même aux gens d'adhérer pour presser les pommes, pour être assuré. Bon, ils viennent avec une centaine de kilos de pommes, donc on va faire des jus de pommes avec ça, donc on est équipé d'un broyeur de pommes, d'un pressoir hydraulique, et puis d'un pasteurisateur, donc on met tout en bouteille, et les bouteilles sont pasteurisées, donc on a un très bon jus de pomme à la fin, sans sucre, sans rien, c'est les pommes sont, voilà. Donc si vous voulez des renseignements, ben, essayez d'aller voir sur notre blog, vous verrez, ben, tous les renseignements sont sur le blog de toute façon.
Et qu'est-ce que j'allais dire, les gens viennent avec leurs bouteilles?
Alors les gens peuvent venir avec leurs bouteilles, si les gens ont des bouteilles, ils peuvent venir avec leurs bouteilles. Alors c'est des bouteilles de jus de fruits qui a un diamètre... je sais pas, une trentaine de millimètres en haut, là. Donc, ils peuvent venir avec des bouteilles propres. Mais nous avons des bouteilles neuves à leur proposer s'ils n'ont pas de bouteilles, quoi. Par contre, ce qu'on impose, c'est d'acheter, ça coûte deux fois rien, mais d'acheter des capsules neuves. On veut pas que les gens mettent leurs capsules qui ont été usagées. C'est une question de sécurité alimentaire aussi, quoi.
Les capsules, vous appelez les capsules?
C'est les capsules qu'on vient visser sur le dessus.
Les couvercles, les bouchons. Les bouchons.
C'est pas des bouchons, ce sont des capsules.
Des capsules, bon d'accord, ok. Et qu'est-ce que j'allais dire? Des bouteilles en verre, hein, surtout.
Oui, des bouteilles en verre, bien sûr.
Alors, Bertrand Trinel, on rappelle que votre association a comme but principal d'inciter les jardiniers amateurs à cultiver leurs lopins de terre de façon naturelle, biologique, en respectant la nature et sans utiliser de pesticides. Alors forcément, Bertrand, vous avez votre opinion sur le retour des néonicotinoïdes pour lutter contre la jaunisse de la betterave.
Oui, tout à fait. Donc, je trouve que c'est vraiment désolant. Parce que depuis le 1er septembre 2018, ces néonicotinoïdes avaient été interdits dans l'agriculture française. Hein. Mmh. Donc ce sont des insecticides, hein, qui ont causé l'hécatombe des abeilles et des autres insectes pollinisateurs, hein, ainsi que les oiseaux, parce que les oiseaux qui mangent les insectes ou les graines contaminées, ben, meurent. Donc, tout ce qui détruit la vie de cette façon devrait être interdit définitivement. Donc d'autant qu'il y a forcément, il doit forcément y avoir des répercussions sur la santé humaine. Mais on se demande parfois si ça compte vraiment, ça, aux yeux de certaines personnes. Hein, santé humaine, on se pose des questions. Alors, les betteraves sucrières, bah, seraient actuellement victimes de pucerons qui transmettent un virus. D'où une perte de production actuellement à peu près de 50% pour certains agriculteurs. Mais tout est relatif, parce qu'il n'y a que 5% des pucerons qui seraient porteurs de virus. Hein, et paraît-il, alors d'après les recherches qui ont été faites, au bout de 3 mois, les betteraves deviennent naturellement résistantes à ce virus. Donc, elles s'adaptent. Hein. Bon, à voir. Mais cette année, il paraît qu'il y a eu une très forte perte de production, ce qui correspond, c'est un peu ce qui correspond quand même à la vie agricole, je dirais, il y a des bonnes et des mauvaises années. Donc cette année, c'était une mauvaise année, mais peut-être l'année prochaine, ce sera une très bonne année. Hein.
Vous ne pensez pas que, justement, les agriculteurs ne savent plus faire avec les saisons, avec les saisons et les différentes intempéries, etc., etc.?
Ben, ce qui est certain, c'est que les agriculteurs, ce ne sont plus des paysans. Avant, on les appelait des paysans, mais les paysans, c'était des gens de pays qui connaissaient leur terre, qui connaissaient le temps, qui connaissaient tout ça, effectivement. Maintenant, ça devient quasiment des entreprises. Donc, et puis, des entreprises qui sont également guidées un peu par certains techniciens qui viennent de Genève pour leur dire, bah, à tel moment, vous devez traiter. Bon, c'est vrai aussi, il ne faut pas rejeter tout le progrès non plus, parce qu'il y a quand même du bon. Mais par contre, tout ce qui est pesticides, ça tue la vie. Donc il faut arrêter avec ça, quoi. Les gens n'ont plus, disons, pour nourrir la terre, on met des engrais chimiques, on met tout ça. Dans le temps, chaque ferme avait ses animaux, donc forcément il y avait fumier qui se transformait en compost et tout ça. Donc bon, voilà. Mais... donc pour revenir sur ces insecticides, hein, ce que les gens viennent à dire, c'est que, enfin les agriculteurs, c'est que les betteraves sont des plantes bisannuelles, donc elles ne fleurissent que la seconde année. Mais forcément, ces insecticides vont se retrouver néanmoins dans les sols, parce que si elles sont dans la graine, bah, ça va être une érosion légère, mais dans les sols, dans les cours d'eau, et puis forcément, dans les prochaines cultures, l'année prochaine.
Hein. Bien sûr.
Donc, on peut pas empêcher les oiseaux de manger des graines, et s'ils mangent des graines, bah, les oiseaux meurent, hein, ça faut le savoir. Hein. Alors, moi, je dirais, il faut toujours revenir un peu comme on dit d'habitude, c'est que peut-être faudrait-il que le consommateur mange un peu moins de sucre raffiné.
Voilà.
Et maintenant que le sucre n'est pas vraiment bon pour la santé.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais vous dire, Bertrand. C'est vrai que, bon, même s'il y a un peu moins de sucre, eh bien malgré tout, ça n'est pas trop grave. Au contraire, puisque il a été constaté que les gens mangent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de sucre et surtout de sucre raffiné, puisqu'on retrouve ce sucre partout dans pratiquement tous les aliments, surtout les aliments préparés. Et je crois que, en effet, ce serait peut-être un bienfait pour la santé.
C'est quand même un non-sens. On tue les abeilles qui produisent du miel qui est très bon pour la santé, qui est un sucre très bon pour la santé, sans abuser, et pour tout ça, pour produire un sucre raffiné. Et puis on cultive des betteraves sucrières également, à grand coup d'engrais chimiques et de pesticides, pour créer du biocarburant avec des betteraves. Alors moi je comprends, je sais pas comment on peut s'appeler ce nom biocarburant, est-ce qu'il est vraiment bio, faut arrêter un petit peu quoi, avec tout ça. Il faudrait plutôt que revenir à des terres qui soient plus fertiles et puis qu'on peut manger de la qualité.
Bien sûr. Ouais. Oui, on a l'impression de marcher un peu sur la tête, là, quand même.
Bah oui, on marche un peu sur la tête. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, puisqu'il y a quand même des fermes bio de 300, 400 hectares qui y arrivent, pourquoi il ne faut pas revenir, pourquoi pas arrêter les pesticides et revenir à un équilibre de l'environnement? C'est comme dans un jardin. Quand le jardin est en équilibre, on n'a plus besoin de traiter. Tout se régule.
Mais surtout que ils ne se rendent pas compte que c'est vrai que c'est pas seulement un problème qui concerne les apiculteurs. C'est un problème global finalement. C'est un problème de terre, d'environnement, d'écologie. Mais c'est il faut prendre le problème dans sa globalité. Ça ne tuera pas seulement que les abeilles.
Ah non, ça ne tuera pas seulement que les abeilles. Ça tue également les oiseaux, c'est déjà prouvé. Mmh. Mais ces pesticides nous tuent également.
À petit feu.
C'est notre santé qu'il faut voir aussi. Moi, je dis aux consommateurs, essayez d'acheter le plus possible bio. Bon, je sais bien que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde d'acheter bio, parce que c'est un peu plus cher, à moins de l'acheter à la source, directement chez le maraîcher bio. Mais essayons d'acheter bio, essayons de faire changer. C'est nous qui pouvons faire changer ces méthodes de culture.
Tout à fait.
Et personne d'autre.
Et puis là, on peut peut-être éviter de manger du sucre dorénavant, puisque on saura que c'est du sucre de betterave traité.
Exactement. Bien sûr, le sucre, on le retrouve dans tous les aliments qu'on achète, tous les aliments transformés, il y a du sucre dedans. C'est comme ça. Mais c'est à nous à changer nos modes de consommation, tout simplement.
Je crois que justement, donc, c'est encore peut-être sans doute un problème de l'agriculture intensive qui n'amène rien de bon, Bertrand.
Non, effectivement, l'agriculture intensive produit une quantité de nourriture au détriment de la qualité.
Bien sûr.
Elle utilise beaucoup de pesticides, mais pas seulement. Quand je vois en plein été des champs de maïs, qui sont sous des geysers d'eau toute la journée, on est en droit de se demander si c'est bien normal. Est-ce qu'il faut produire du maïs par ici, ou quand il fait très chaud, pour nourrir des animaux? Est-ce qu'on ne pourrait pas manger également un peu moins de viande?
Tout à fait.
Pour qu'on nourrisse la planète un peu plus facilement. Alors c'est évident que ces pesticides ne concernent pas seulement les apiculteurs. Comme on l'a dit, la plupart des pesticides, c'est tout le vivant qui est en danger.
Tout à fait.
Alors je dirais simplement, je redirai aux consommateurs, réveillez-vous et achetez le plus possible local et bio.
Bertrand, merci. Alors, on ne se dit pas la semaine prochaine, puisque, m'avez-vous dit, vous êtes en formation. Oui, toujours avide d'en savoir plus, je vois.
Oui, je suis encore en formation la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je crois que je ne suis pas là non plus, désolé.
Voilà, écoutez, on se passera de vous. Voilà.
Ouais, voilà.
En tout cas, merci encore Bertrand, et puis à bientôt. Et surtout, bon courage à vous.
Merci beaucoup.
Merci Bertrand, bonne semaine et bon courage.
Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine Martine.
Facilement d'où l'on vient, d'où l'on part. Ça nous arrange de perdre de temps en temps la mémoire. Quand il y a danger, on regarde son voisin, c'est bizarre. Sans voir qu'on l'a peut-être laissé trop longtemps à l'écart. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord?
un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. On abîmente nos peurs qu'en détournant nos regards de nos belles valeurs qui ne seraient pourtant qu'un devoir. Et si l'on apprenait à se prendre la main, à se voir autrement que des inconnus qui ne font rien des histoires. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord, un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre, je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. Ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. Où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, c'est mes frères autour de moi, mes repères, alors qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord, un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, que je vois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. C'est ma terre où je m'assois,
ma terre où je m'assois,
ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi,
c'est mes frères autour de moi,
mes
Christophe Maé sur Radio Plus. Alors dans quelques instants, Gilles Cotinet sera avec nous. Mais avant de le retrouver, on écoute Hugo Frey.
Quatre vieux chevaux sur un pauvre trottoir, mené par un boucher vers les grands abattoirs. Quatre petits garçons buissonniers comme l'air, d'abord s'étonnent, pleurent, puis se mettent en colère. À l'usine de la mort, où tout paraît si grand, on se faufile aisément quand on est un enfant. Voilà nos quatre amis dans les boxes géants, quatre chevaux qui s'enfuient sur leur dos, quatre enfants.
Quatre chevaux
courent dans ma tête.
Quatre chevaux.
Après plus de trois jours de nuit blanche et de fugue, nos huit petits amis trouvent enfin un refuge. À l'écart de la ville, dans les ruines d'un manège, pour s'abriter un peu des hommes et de la neige.
Quatre chevaux
courent dans ma tête.
Quatre chevaux
courent dans ma tête.
Passe-moi, l'hiver se terminera mal, car le froid et la faim vont leur être fatales. Quatre gentils chevaux qui n'étaient pas de bois, quatre petits garçons qui enfreignaient la loi.
Quatre chevaux
courent dans ma tête.
Quatre chevaux
courent dans ma tête. Attendez-moi, partez pas sans moi. Quatre vieux chevaux sur un pauvre trottoir, menés par un boucher vers les grands abattoirs. Quatre petits garçons, le cœur lourd sans parole, reprennent tristement le chemin de l'école. Le chemin de l'école. Le chemin de l'école.
Eh oui, le cheval, c'est beau sur un terrain de sport, mais ça n'est pas beau du tout dans notre assiette. Alors, l'équitation est le quatrième sport national avec environ 650 000 cavaliers licenciés. La France compterait ainsi 2,2 millions de cavaliers pratiquant régulièrement le cheval. C'est trop génial, dit le spot. Le cheval fait l'unanimité ou presque chez les Français et tous les sondages confirment que l'animal détient une place de choix dans l'inconscient collectif en suscitant spontanément l'affection. C'est à vous tous qui portez ce sentiment à celui qui est, comme on le dit souvent, l'autre meilleur ami de l'homme que Gilles Cotinet s'adresse. Bonjour Gilles.
Bonjour Martine.
Alors vous êtes président de l'ASE, Association de sauvegarde des équidés, association qui a déjà plus de 25 ans d'existence et avec laquelle vous avez déjà sauvé plus de 200 bêtes. Association que je vous laisse nous présenter. Alors c'est toute une histoire à la fois émouvante, étonnante et exemplaire. Et je laisse votre cœur parler, Gilles.
Merci Martine. Eh bien, l'association, c'est vrai, ça fait 25 ans qu'elle existe. Elle a été créée en 1995. Qui au départ s'appelait ACDB, Association contre les chevaux destinés à la boucherie. Et en 97, quand j'ai commencé à travailler avec les écuries de course de Chantilly et de Maison Lafitte, la présidente des entraîneurs m'a dit « Moi, je veux bien travailler avec vous, en parler aux entraîneurs, mais changez-moi votre nom, car le nom Association contre chevaux destinés à la boucherie, on est déjà montré du doigt dans le monde des courses, parce qu'on les propriétaires envoient facilement leurs chevaux à la boucherie quand ils n'en ont plus l'utilité. » Et donc, c'est ce que j'ai fait, j'ai rebaptisé à l'époque l'association ASE, Association de sauvegarde des équidés. Tout simplement. Donc le but était bien sûr de pouvoir récupérer le minimum de chevaux qui était au départ de les acheter à un prix en francs de 5000 francs par tête de cheval. On voulait en faire à peu près 4 à 5 par an, ce qui aurait fait 25 000 francs à l'époque. Et un jour, j'ai une personne qui m'a donné son cheval carrément. Il m'a dit « Moi, je veux pas le vendre ». Et il y a eu un article de presse qui est sorti à ce sujet-là et ça a fait boule de neige. On était victime un petit peu de notre succès.
Mmh.
Voilà. C'est pour ça que on a récupéré beaucoup de chevaux, on a récupéré beaucoup de pur sang au départ, des écuries de course de Chantilly, de Maison Lafitte, puisque moi je viens de ce milieu-là, hein, du monde des courses, donc je savais très bien ce qui se passait et de quoi je parlais à l'époque.
Mmh.
Bon, c'était sûr que c'était pas toujours évident parce que les gens n'appréciaient pas beaucoup et un propriétaire, même d'un cheval de course, au prix coûtait à la boucherie, à l'époque était de 5000 francs, la boucherie préférait l'envoyer à la boucherie que le donner et perdre 5000 francs, même s'il lui rapportait plus d'argent. Bon, c'est comme ça, on peut rien y faire, c'est la mentalité, mais la mentalité a beaucoup changé quand même.
C'est fou, hein, c'est fou Gilles.
Ouais, c'est fou, ouais. C'est affolant.
Alors justement, aujourd'hui, Gilles, vous lancez un appel, car bien évidemment, le Covid-19 et la sécheresse ont engendré des conséquences fâcheuses pour vos pensionnaires, et la situation devient catastrophique pour eux, justement.
Oui, la situation devient de plus en plus dure, parce que les gens s'adhèrent de moins en moins. En plus, comme nous sommes une association qui n'est pas reconnue d'utilité publique, forcément, les gens cotisent plus à une association qui est reconnue d'utilité publique, puisqu'ils peuvent déduire à 100% leurs dons. Et nous, c'est vrai qu'en tant que particuliers qui donnent à notre association, ils peuvent déduire que 66%. Mais avec les problèmes de sécheresse et de temps qu'on a de plus en plus chaque année, nous sommes obligés de nourrir de plus en plus tôt les chevaux au foin. C'est-à-dire qu'on tape, comme tout agriculteur, même dans le monde agricole, on tape dans les réserves d'hiver. Et ce qui fait qu'on est obligé d'acheter sans arrêt. Là, depuis le mois de juin, nos chevaux, l'herbe qu'ils avaient, qui était quand même assez haute, a duré 15 jours pour le nombre de chevaux. Donc, on a été obligé de nourrir plus tôt les chevaux au foin. Et donc, c'est des achats supplémentaires ou de la nourriture supplémentaire parce que il n'y a pas que le foin. Et après, il y a l'eau, il y a tout ce qui s'ensuit qu'il faut gérer en plus de tout ça, quoi. Donc, tout ça, c'est pas prévu dans notre budget, quoi, pour être franc. Mmh. Et les moyens manquent énormément.
Mmh. Eh bien oui, comme tout refuge animalier, il faut bien sûr nourrir, mais aussi apporter les soins vétérinaires nécessaires. Et bien sûr, cela a un coût. Et précisons que vous ne bénéficiez d'aucune aide, hormis celle de votre commune Amblin-les-Prés.
Oui, c'est exact. On n'a qu'une subvention que la commune nous accorde, qui est très gentille de leur part d'ailleurs. Et c'est vrai que les coûts sont quand même assez importants, puisqu'on parle que de nourriture, mais sur un cheval, il n'y a pas que la nourriture. Il y a le vermifuge qui a donné tous les 4 mois, il y a le parage qui a fait tous les 3 mois ou 4 mois. Après, vous avez les vaccins. Quand on arrive à la période en septembre, faut compter quand même 700 euros de vaccins pour tous les chevaux qu'on a. Et après, il y a tous les chevaux qui sont malades, qui attendent des soins. Nous avons des chevaux qui sont emphysémateux, qu'il faut donner des produits bien spécifiques, qui coûtent très cher, ou de l'arpagile pour les chevaux qui sont très raides, parce que vu l'âge de certains chevaux, il faut leur donner de l'arpagile pour qu'ils puissent se déverrouiller, entre guillemets. Mmh. Donc tout ça, c'est des produits qui coûtent très 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 cher. C'était pas prévu dans nos budgets aussi, parce que c'est vrai qu'en vieillissant, les chevaux, c'est comme les personnes, ils ont besoin de plus de soins, quoi.
Mmh, c'est comme, comme tout animal, tout être vivant, on va dire.
Voilà, ouais.
Et donc, je sais aussi qu'à ce jour, vous galérez pour un tracteur qui a besoin d'être remplacé.
Oui, c'est vrai, nous avons un tracteur qui est très important, c'est la pièce moteur de l'association, puisque c'est lui qui sert à aller chercher de l'eau avec une citerne et à breuver tous les chevaux, puisque nous n'avons ni électricité ni eau, donc nous sommes en pleine nature, on fonctionne avec un groupe électrogène pour l'électricité, et l'eau on va le chercher avec la cuve. Et sans tracteur, les chevaux ne peuvent pas s'abreuver. Alors où je prends ma voiture avec des bidons, mais il me faut 3000 litres d'eau par semaine. Et donc 3000 litres d'eau, aller chercher avec des bidons de 20 litres, vous voyez, la voiture elle en prend un coup, et puis nous on ne se fait plus tout jeune non plus, on commence à vieillir, donc forcément la force, la motivation est là, mais la force des fois n'est plus là aussi.
Mmh. Alors Gilles, chacun d'entre nous peut vous aider, et même les plus petits dons seront les bienvenus, alors vous nous dites comment faire?
Alors les gens qui veulent faire un don, ils peuvent envoyer un chèque à l'association, qui est aux 2 rue Joliot-Curie, 62-118 Amblin-les-Prés. Après, il y a une cagnotte, litchi qui a été faite pour le tracteur, et puis même une deuxième pour la nourriture des chevaux, qui a été mise en place sur Facebook et Internet. Et après, les gens, ils peuvent venir nous rencontrer en téléphonant, bien sûr, pour pas venir comme ça, pour avoir porte close. S'ils veulent venir, hier après-midi, j'ai une personne qui est venue me voir pour me déposer un chèque et faire connaissance avec l'association et voir comment on fonctionne. Tout ça, c'est encore faisable. Voilà. Et l'achat du tracteur, c'est vrai, quand on a un tracteur qui sera à la pointe de ce qu'on recherche, quand même assez coûteux, quoi. Ça coûte pas 2000 ou 3000 euros où on en trouve, mais il y a beaucoup de réparations à faire dessus. Quand on lit les annonces, au départ ils sont en bon état, mais quand vous lisez jusqu'à la fin des annonces, il faut changer le joint de culasse, il y a les démarreurs à changer, et nous on peut pas. Nous on a déjà un tracteur, un John Deere 510 qui date de 1965, et on ne trouve plus les pièces, on galère pour trouver les pièces, même si on en trouve. Il faut faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher des pièces qui vaut 3 euros ou 4 euros. Des trucs tout bêtes, quoi.
Mais alors, Gilles, vous nous avez parlé de foin. Est-ce qu'il n'y a pas des... aussi, on peut peut-être aussi lancer un appel à certains fermiers qui peuvent peut-être se délester de quelques bottes de foin, non?
Oui, on peut lancer un appel aussi. C'est sûr qu'un fermier qui veut nous aider, qui veut nous donner du foin, de la paille ou quoi que ce soit, en sachant que le foin, nous travaillons qu'avec des petits ballots, puisqu'on a un problème de stockage. Donc, pas de stocker des remballeurs ou autres, mais bon, c'est vrai que toutes les propositions, ils sont bonnes à prendre, hein. Vous savez, on prend tout ce qu'on peut pour les chevaux, nous, on refuse rien.
Bien sûr. Bien sûr. En tout cas, je vais redonner votre adresse. Hein. Donc, c'est 2 rue Joliot-Curie,
oui.
62 118 Amblin-les-Prés.
Voilà.
On peut redonner votre numéro de portable ?
Ah oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, le 06 50 42 83 19. Les gens qui veulent faire connaissance en plus un peu plus avec l'association peuvent aller sur internet, ils tapent simplement mon nom, Gilles Cotinet,
voilà.
Pour avoir toute la rubrique qu'il y a sur l'association et nous concernant.
Voilà. Alors Gilles, eh bien on espère de tout cœur que votre appel a été entendu. Donc j'invite vraiment nos auditeurs qui veulent mieux vous connaître à aller, comme vous venez de le dire, sur votre site. C'est pas compliqué, hein. Il suffit de taper dans un moteur de recherche Gilles Cotinet, C-O-T-I-N-E-T. Et très vite, on se rend compte, justement, en faisant votre connaissance, on se rend compte du travail accompli. Et ce site donne vraiment l'envie de vous aider et en plus, il nous dit comment vous aider. Pour ceux qui n'ont pas tout entendu, qui n'ont pas tout écouté. En tout cas, Gilles, on vous souhaite vraiment bon courage et, oui. on vous dit merci pour ce que vous faites.
Ah, c'est moi qui vous remercie, Martine, vous et puis votre radio, Radio Plus, de nous avoir accordé un petit peu de moment.
Et votre place y est quand vous voulez.
Eh bien, c'est enregistré.
Ouais. Merci, bon courage à vous et à votre équipe, parce que vous avez toute une équipe quand même autour de vous.
Oui, on a toute une équipe, je ne suis pas tout seul, nous avons le trésorier, la secrétaire, et après nous avons des bénévoles. C'est vrai que tout ça, c'est un travail qui est accompli, on parle souvent de moi, parce que c'est moi le fondateur de l'association, mais c'est vrai qu'il y a tous ces gens qui travaillent un peu dans l'ombre, il ne faut pas les oublier non plus.
Merci Gilles.
Merci bien.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. Tout s'oublie, je suis là, prends ma main. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Si tu rêves de beauté et de jours sans fin, de te rendissant au cœur des forêts, viens avec moi, viens. On n'y voit pas de méchants, mes sales amis sont vieux, les fleurs et le vent. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là où il fait si bon. Tes yeux tendres me font voir que toi seul je tiens. Ne sois pas triste, il n'est pas trop tard. Viens avec moi, viens. Si tu veux bien, prends ma main. Laisse-moi, je connais le chemin. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon.
C'était Marie Laforêt. C'est vrai que se promener avec son cheval, découvrir de la nature en faisant un petit peu d'équitation, c'est vrai que c'est pas mal. Et comme le dit encore Marie Laforêt, eh bien, tant qu'il y aura des chevaux, nous serons des gens heureux. Alors, elle va, voilà, Marie Laforêt.
Tant qu'il y aura des chevaux, des arbres, des oiseaux, nous resterons ensemble. Tant qu'il y aura de l'amour, tout comme au premier jour, nous aimerons ensemble. Puisque tu me ressembles, puisque je te ressemble, puisque nos corps s'assemblent, que l'amour est étrange, comme la bougie s'affole et qu'elle caracole et qu'elle perd la boussole sur nos monts évalés. Tant qu'il y aura des chevaux, des arbres, des oiseaux, nous resterons ensemble. Tant qu'il y aura de l'amour, tout comme au premier jour, nous aimerons ensemble.
Eh oui, préservons notre terre et préservons notre environnement. Oui, nous resterons ensemble si vous le voulez bien aussi, puisque si l'air du temps se termine, eh bien on poursuit ensemble avec Kaléidoscope, sa musique et ses chansons pour vous faire passer un très très bon moment. Et encore une fois, je vous souhaite une très très bonne matinée et merci d'être avec nous sur Radio Plus.